With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Que pensaient des prédicteurs de performance de nos montres et ne nous voient-ils pas un petit peu plus rapides que nous le sommes en réalité? Eh bien, c'est la question qui m'a été posée. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans l'Amsterdam Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien pour nous rejoindre est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et il y a quelques semaines, j'ai eu deux questions de Maria-Laura et de Chloé qui m'ont questionné sur la fonction prédicteur de temps de course, de performance de leur montre. Maria-Laura, par exemple, s'est étonnée que la prédiction de course de sa montre Coros passe de 4h45 à 3h59 sur marathon en quelques temps, alors qu'elle a le sentiment de traîner la patte, de ne pas aller si vite que ça. Et Chloé, elle, a été particulièrement perturbée dans la préparation de son premier semi-marathon. En fait, c'est Garmin lui a indiqué 2h14 de temps prévision, quand elle vise 2h30, et donc elle s'est mise à douter sur les allures qu'elle devait suivre et se demander si elle ne devait pas finalement écouter sa montre, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu... que tout le monde se pose un petit peu d'ailleurs. D'où vient ce temps de prédicteur de course et qu'est-ce qu'il faut en faire? Moi, j'avoue, je ne suis pas un grand fan de cette fonction qui peut nous donner une indication, mais qui reste un calcul théorique. C'est un calcul. Pour moi, elle exprime surtout un potentiel basé sur des analyses des allures sur des distances plus courtes. Si on n'a jamais couru un marathon, elle va donner une vitesse, une allure sur marathon, elle va donner un temps sur marathon, semi-marathon. Mais finalement, c'est un calcul, une déduction. Donc voilà, elle prend les temps d'entraînement, elle prend tout ce qu'on fait d'entraînement sur les différentes distances, sur nos vitesses, et elle fait un calcul. Et donc ça reste un calcul. Un potentiel, une extrapolation surtout, et en fait que la montre, elle va pas ajuster avec des choses qui sont notre économie de course, notre préparation, notre capacité à se tenir certains efforts. Et là, c'est vraiment un point qui est vraiment important, parce que finalement, on peut avoir être rapide, par exemple, sur des courtes distances, et puis ne pas arriver à transformer ça sur des longues distances, et on peut avoir l'inverse. J'ai par exemple connu au club, quand je cours au club, deux coureurs qui avaient finalement à peu près le même temps sur marathon, mais l'un avait une VMA qui était plus élevée que l'autre, et l'autre, il y en avait un qui était finalement plus régulier dans ses efforts. Une fois qu'il était lancé, il courait toujours à la même vitesse, alors que l'autre qui avait une VMA plus élevée était capable de peut-être avoir des variations, mais en fait sa vitesse de pointe qu'il avait, il n'était pas capable de la tenir si longtemps que ça. Et donc les prédicteurs de course, je pense, si on regardait dans leur cas, se seraient un petit peu plantés. Et ça, c'est difficile pour une montre à l'évaluer parce que il y a des gens qui sont très 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 bons sur des courtes distances, qui ont des bonnes pointes de vitesse, des bonnes VMA, mais qui ne sont pas capables de maintenir cet effort-là sur le temps d'une distance plus longue, tout simplement parce que je reviens sur ce qu'on disait, des données dont on avait discuté notamment avec Bruno Obi sur l'épisode sur la préparation d'un 24 heures, l'efficacité de sa foulée, c'est l'économie de course, c'est sa capacité à maintenir l'effort, tout ça en fait, ça se travaille. Il n'y a pas que la puissance qui est représentée par la VMA, il n'y a pas que finalement la capacité à tenir sur l'endurance dont on avait parlé, il y a aussi la capacité à maintenir l'effort dans le temps et le fait d'avoir une foulée qui est plus ou moins efficace et savoir si finalement on est capable de tenir certains rythmes, certaines allures tout le temps ou si on ne tient pas le choc longtemps. Et puis, comme l'a remarqué Chloé, ce chiffre, en plus des prédicteurs de performance des montres, évolue au fil des entraînements et ça c'est totalement normal. C'est logique, si on s'entraîne bien, on progresse, on va peut-être plus vite, c'est peut-être plus facile, peut-être qu'on court plus longtemps, et donc le calcul va évoluer. Et Chloé avait remarqué que le chiffre évoluait ben finalement pratiquement chaque semaine, à chaque entraînement, et qu'elle finissait par gagner presque une minute, hein, sur d'après le prédicteur de performance, il lui annonçait une minute de mieux pratiquement à chaque entraînement. Donc à ce rythme-là, finalement, ben, on peut dire on progresse vraiment très vite. Et c'est là que j'ai envie de dire que finalement, les prédicteurs sont souvent un petit peu considérés comme étant un petit peu généreux. Alors est-ce que c'est une générosité qui est faite en disant ben, le potentiel augmente et il le... Il y a peut-être une multiplication du fait de partir de temps sur des temps de course assez courts, et ce qui fait qu'avec des multiplications, ça fait des grands changements au bout du compte. Ou est-ce que c'est un petit peu, vous savez, un petit peu de la motivation, un effort un peu marketing de dire, bah oui, vous êtes vachement bien entraîné, regardez, votre score, votre VO2 max augmente, votre temps sur semi-marathon va augmenter, vous êtes de plus en plus rapide, bravo. Une sorte de motivation, une sorte d'encouragement qui serait placé dans la montre et dans lequel finalement les calculs seraient un petit peu tous évalués, surévalués. Et puis, il faut le dire aussi, c'est que les prédicteurs ne sont pas tous d'accord avec, entre eux. Hein, d'ailleurs, si les deux prédicteurs de course discutaient entre eux, par exemple, moi, j'ai voulu faire discuter un peu Strava et Coros un petit peu. Imaginons les prédicteurs Strava et Coros, et ben, en fait, ils sont pas d'accord. Bah non, ils sont pas d'accord. Par exemple, Coros, il m'annonce 3h42 et 8 secondes sur marathon. Strava, 3h46 et 0,5 secondes. Alors bon, il y a 4 minutes sur... presque 4 heures de course, c'est pas une erreur importante, hein, c'est on va dire une petite minute par heure à peu près. C'est pas énorme finalement, c'est un écart qui est minime. Mais en fait, l'écart, il est encore plus important sur semi-marathon. Il est de 6 minutes, il est de 3 minutes sur 10 km et de 3 minutes sur 5 km. Et là, c'est vraiment un gros pourcentage, parce que là, on parle pas d'un petit changement de 1 km sur une heure, enfin une minute, même si c'est même pas un kilomètre, c'est une minute sur une heure finalement. Non, là, on parle vraiment hein, de quelque chose qui serait un changement à peu près de, je sais pas, on va dire 3 minutes, vous voyez, ça fait presque 9 minutes hein, sur le temps sur 5 km. Bah, 9 minutes d'écart, ça fait une bonne vitesse d'écart quand même, hein, si on transforme en kilomètre heure. C'est pas du tout la même vitesse. C'est vraiment pas du tout la même vitesse. Et donc là, il y a vraiment un problème. Hein. C'est-à-dire que dans le calcul, on se rend compte qu'à partir des mêmes données, l'analyse des mêmes données, puisque à chaque fois que je vais courir, bah finalement, j'ai ma montre Coros qui envoie les données à Strava. Donc, ils ont les mêmes données exactes. Hein. La donnée de base est exactement identique. C'est pas qu'un a plus de données que l'autre ou quoi que ce soit. Non, c'est les données de base sont identiques. Le calcul est différent. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que ce pourcentage de différence est important et vraiment important sur les vitesses, d'ailleurs les plus sur les distances les plus courtes, ce qui est un petit peu surprenant, mais qu'en plus, selon les distances, je suis une fois plus rapide sur Strava et une autre fois sur Coros. Donc, même dans le calcul, finalement, on voit qu'il y a une différence de vitesse hein, et de traitement, d'analyse et autres, entre la vitesse, d'une fois il va me dire que je suis plus rapide, le Strava me dit que je suis plus rapide sur 5 km que Coros, et puis sur 10 km, Coros va considérer que je suis plus rapide. Sur, je vous l'ai dit, sur marathon, bah, il vaut mieux que j'écoute Coros, j'ai envie de dire. Alors que sur semi-marathon, je crois hein, que Strava est meilleur. Là, j'ai pas sous les yeux, mais en tout cas, j'étais assez surpris par ces écarts, par ces évaluations qui étaient vraiment où on voit qu'il y a vraiment une grosse différence. Et puis, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est que c'est 3h42 pour Coros et c'est 3h46 pour Strava. Et ben finalement, c'est 3h46, c'est mon temps sur mon marathon de Paris. Sauf que sur mon marathon de Paris, mais en fait, j'avais une VMA qui était 3 points plus haute que maintenant, en fait. Tout simplement 3 points plus haute. Alors, bien entendu, on pourrait dire que j'avais une VMA plus importante, mais que j'étais pas capable de tenir l'allure sur ce temps de course, hein. Et là, on revient sur les histoires d'efficience, d'efficacité, etc. Donc là, je veux bien. Mais par contre, hein, vraiment, je peux le dire, c'est que quand je regarde le temps qui m'annonçait sur des courtes distances de 5 km, là, pour moi, il y a vraiment un problème. Et c'est là, je dis, attention, qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée-là? Eh ben, pour moi, c'est une donnée comme une autre. Pour évaluer un temps sur une distance qu'on ne connaît pas, ça fait partie, en fait, des paris, hein, qui peuvent être donnés en disant, bah, tiens, ce temps-là me semble intéressant, je peux peut-être le viser. Ça peut peut-être donner un objectif à une condition, c'est qu'il faut arriver à juger s'il est atteignable réellement. C'est-à-dire que si c'est un véritable objectif et si le temps prédit, par le prédicteur de montre, par le calcul qui est fait, est crédible et, en fait, dans mes capacités. Par exemple, sur le temps qui est annoncé par Strava et par Coros sur mon 5 km, ils sont réellement hors de portée du fait de ma VMA qui est bien plus faible. Et en fait, les temps qu'ils ont annoncés, vraiment, ben en fait, ils sont plus rapides que mon record établi alors que j'avais une VMA qui était plus haute. de 3 points quand même. Et donc là, il y a un truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai mon meilleur temps, mon record hein, sur 5 km, j'avais des vrais entraînements de VMA, j'avais la VMA qui était tous les mercredis, je courais en club, j'avais une VMA qui était plus élevée, on travaillait la VMA, la vitesse, j'accélérais en fait, j'arrivais à aller courir un petit peu plus vite tout le temps. Donc j'avais vraiment des entraînements spécifiques sur la vitesse. Bon, je peux pas dire que en préparant actuellement à 24 heures, où on va travailler des allures lentes, où je travaille des allures pour courir 24 heures et pas pour courir un 5 km, un 10 ou un semi. Donc où là, il y a un petit peu de travail de VMA, mais alors c'est pas vraiment les mêmes intensités. L'allure que je dois tenir sur une sortie longue, c'est pas une allure d'un marathon non plus, hein, c'est une allure qui est beaucoup plus lente. Comment je peux vraiment battre mon record sur 5 km en m'entraînant à une allure qu'on va dire qui est plus proche des 8 km/h et vraiment et encore c'est vraiment entre 8, 9, 10 km/h. Comment je peux battre mon temps sur 5 km? Là je ne vois pas, vraiment je ne vois pas. Peut-être qu'il a pris en fait qu'il prenne certaines accélérations que je peux faire, peut-être qu'il prenne une vitesse sur 30 secondes en disant bah oui sur 30 secondes je suis capable de faire ça, mais comment même me dire que je suis capable de tenir cette vitesse là sur 5 km et sur 10? Là, c'est un mystère. Et c'est là où vraiment il y a un élément qui est à creuser. C'est que pour moi, on pourrait considérer que ce prédicteur peut-être estimer un potentiel. Mais qu'après, il faut le réaliser. C'est-à-dire que potentiellement, peut-être effectivement, que d'après mes vitesses de pointe, peut-être certains efforts, peut-être certains tests que j'ai pu faire, certains exercices, pourraient exprimer un potentiel. Et peut-être que quand vous regardez votre prédicteur de course qu'il y a sur votre montre, sur vos applications, sur Strava, et ben finalement c'est un potentiel. Mais le problème du potentiel, c'est que derrière il faut le réaliser. Donc c'est l'entraînement qui permet de le réaliser. On peut dire que j'ai peut-être le potentiel pour courir le 5 km en 20 minutes, quelque chose comme ils peuvent m'annoncer sur Strava, mais à une condition de faire des entraînements vraiment adaptés pour le réaliser, c'est-à-dire vraiment faire des exercices de vitesse, vraiment travailler ma vitesse, vraiment être capable de travailler ma VMA sur la séance courte, mais aussi sur la VMA longue, c'est-à-dire être capable de tenir cette VMA non pas sur des accélérations de 30 secondes, mais sur 1 ou 2 km d'affilée et de tenir les allures qui permettront justement d'arriver à cette vitesse pour courir 5 km dans le temps imparti. Et c'est pareil pour le marathon, où sur le marathon, il y a les allures marathon à tenir, et où l'allure marathon qui m'est annoncée actuellement par Coros pour faire le temps qu'il m'annonce, eh ben, je me vois pas comment je la tiens plus de 5 à 10 minutes. Alors on pourrait dire que peut-être j'ai le potentiel pour le faire, mais pour réaliser ce potentiel, il faut vraiment que j'arrive à m'entraîner aux allures qui sont précisées, et vraiment s'entraîner à l'allure nécessaire, la répétition des efforts, des allures, pour permettre de se rapprocher de ce potentiel. Et la question qui va se poser, c'est que si ces prédicteurs sont un peu trop généreux, eh ben ils peuvent nous faire aller sur des allures qui sont un peu trop élevées, qui peuvent être épuisantes, et donc sur lesquelles on va essayer de courir à ces allures-là, mais finalement, c'est épuisant, c'est fatigant, ça tire sur l'organisme, et est-ce qu'on risque pas la blessure? Est-ce qu'on risque pas le surentraînement? Et puis, elle peut être aussi décourageante, parce que on se dit, on va essayer de courir aux allures qui sont annoncées, et en fait, on se rend compte que, par exemple, sur une séance de 30-30, sur une séance d'accélération, sur une séance de seuil, eh ben, on n'arrive pas à tenir les allures qui sont calculées, hein, par le prédicteur, qui nous dirait, vous pouvez courir, finalement, votre 5 km en courant à telle allure, mais qu'en fait, on se rend compte qu'on n'arrive jamais à tenir ces allures-là, et donc, finalement, c'est décourageant en se disant, je suis pas si rapide que ça, je suis pas bon ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment pour moi un petit peu la conclusion que je voulais donner de ma réflexion sur ces outils-là, c'est que ce sont des indicateurs, peut-être qui indiquent finalement notre potentiel, mais il faut garder en tête que ce sont des calculs et que en fait ils sont basés avant tout sur la vitesse, qui sont basés sur les exercices, tous les entraînements qu'on fait. Mais vraiment, ils sont basés sur beaucoup ce qu'ils ont eux sous la main. C'est quoi? C'est le rythme cardiaque, qui est d'ailleurs souvent pris au poignet. Donc après on va dire est-ce qu'il est moins précis, assez précis ou quoi que ce soit. Et puis c'est pris sur notre vitesse, hein, finalement. Est-ce qu'on fait des accélérations, quelle vitesse on court, quelle est notre vitesse moyenne. Et donc à partir de là, ils vont extrapoler avec différentes méthodes de calcul, tout un tas de données qui sont la VO2 max. Et à partir de la VO2 max, ils vont dire la VO2 max plus la vitesse plus ça et ça, et va donner un potentiel de vitesse qui va donner un potentiel de temps de course, par exemple, sur 5, sur 10, sur semi-marathon et sur marathon. Mais que ça, finalement, ça reste un calcul et que le résultat final, est-ce qu'on va être capable de courir un 5, un 10, un semi à la vitesse annoncée par le prédicteur va dépendre de notre efficience, notre économie de course, va dépendre aussi de la forme du moment, des conditions de course, de notre repos, de la nuit avant, de nos émotions, de savoir s'il fait chaud, s'il fait froid. Je vous rappelle que dès qu'il fait très chaud, eh ben, on perd en qualité, hein, on perd en capacité de course, tout simplement. Et puis, s'il fait très froid, qu'on n'aime pas le froid, ben, on peut perdre aussi un petit peu. On peut perdre aussi pour plein de raisons, hein, qui peuvent varier aussi. Par exemple, on pourrait dire s'il a plu, s'il pleut, s'il y a du vent, il y a plein d'éléments. Et donc, vraiment, on parle là d'un potentiel. Un potentiel qui peut être en plus un peu surestimé, mais on parle là d'un potentiel. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce potentiel, en fait, on se rend compte qu'il évolue. Alors, c'est normal que le potentiel, il évolue. Mais au départ, eh ben, si on prend un plan pour courir un 10 km, un semi ou un marathon, ben, on va commencer à travailler sur des allures. Et c'est important de travailler sur une allure, de se fixer une allure, de se dire, ben, mon allure marathon, c'est ça. Mon allure pour le semi-marathon, c'est ça. Alors, elle peut peut-être un petit peu évoluer. Mais si le calculateur se met à annoncer que tout d'un coup, on va pas courir le kilomètre je vous donne un exemple, en 5:30, mais qui nous dit d'un coup, vous pouvez le courir en 5:16, l'écart, il est vraiment extrêmement important. C'est vraiment très important. Et donc, est-ce que vraiment, on est en capacité de suivre le conseil du prédicteur? Et ça, c'est la vraie question qui se pose. Et c'est pour ça que je dis attention, il faut vraiment être capable de l'évaluer, hein, voir si vraiment le calcul qui est fait, eh ben, on est capable vraiment, s'il est cohérent, par rapport à ce qu'on est capable de faire, par rapport à la charge d'entraînement, par rapport à la progression réelle, ou si là, on juge qu'il est vraiment extraordinaire. Et puis, il faut le dire aussi, c'est qu'on pourrait le vérifier à d'autres tests. J'ai fait une vidéo, je vous mettrai un lien dans les notes d'épisode sur le Magic Mile, avec un calculateur, je vous ai mis un petit fichier Excel sur Drive, là où vous pouvez remplir, télécharger, faire une copie et mettre des chiffres. Le Magic Mile, c'est un test qui consiste à courir 1,6 km, et à partir de là, il y a des statistiques sur des 1000 coureurs qui ont été faits. Et ben, pour voir vraiment si quelqu'un qui court un Magic Mile en tant de temps, il va faire tel temps sur 5, sur 10, sur semi-marathon et sur marathon. Et là, j'ai eu des retours là-dessus, sur cette méthode de calcul, avec certains coureurs qui ont été surpris de la justesse du résultat et vraiment de la justesse, qui est de dire à 1 minute d'écart sur un semi-marathon ou sur un 10 km. Donc vraiment une précision qui est vraiment très importante, et c'est vraiment très intéressant qu'une précision qui est vraiment très importante, si le test, qui est très simple en plus, hein, il suffit de s'échauffer, et puis ensuite on court 1,6 km. Et à partir de ce temps-là, il y a un multiplicateur qui est appliqué, hein, d'après les statistiques qui ont été faites sur des milliers de coureurs, et ben, on se rend compte que quand même le test est assez juste. Et alors, la vraie truc, ça serait de dire, bah tiens, on pourrait vérifier la justesse de ce que dit le prédicteur par un test de VMA, d'une part, hein, qui pourrait donner des idées, par un Magic Mile, voir un petit peu et regarder un petit peu comment on va ajuster les temps entre les différentes méthodes de test de ce qui a été donné. Et puis, je vais vous donner une dernière info, c'est que Chloé, qui me posait la question, elle avait posé la question avant de faire son semi-marathon. Donc maintenant, elle a fait son semi-marathon. Et donc, elle l'a fait en 2h27, quand le prédicteur lui annonçait un potentiel de 2h14. Et même si elle me confie qu'elle aurait pu aller plus vite, elle serait dans tous les cas restée loin des 2h14 annoncées. Peut-être qu'elle serait allée un peu plus vite, mais entre 2h27 et 2h14, il y a quand même une sacrée marge d'écart. Et même en allant un peu plus vite sur la fin, eh ben, elle se serait peut-être un petit peu rapprochée de quelques minutes, mais de là à aller chercher 2h14, eh ben, peut-être que c'était pas encore le moment. Mais moi, je pense que Chloé, en s'entraînant, eh ben oui, elle peut arriver à atteindre cette 2h14. Parce que on peut dire que le prédicteur, bah on va dire que c'est un potentiel. C'est un potentiel à viser avec finalement les caractéristiques du moment. Peut-être que on peut pas le viser là dans quelques temps, et c'est ça un petit peu le problème du prédicteur, c'est que en fait il nous annonce un potentiel, mais ça serait un potentiel qu'on peut viser quand on aura fait une prépa complète, quand on a fait vraiment une prépa, une vraie prépa, quand on est vraiment prêt. Pour moi, c'est plutôt ça, et il devrait plutôt dire, en fait, c'est notre prédicteur de course, avec un prédisant un potentiel dans tant de semaines, après tant de semaines d'entraînement, un petit peu finalement, comme le ferait un plan d'entraînement en disant, bah voilà, on va faire un plan en visant un temps de 2h14 sur semi-marathon dans X semaines, en ayant suivi tel plan. C'est peut-être l'info qui manque dans les prédicteurs, selon moi, et qui trompe un petit peu les gens. Mais en tout cas, c'est mon avis. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de voir est-ce que vous le suivez, est-ce que vous le suivez pas? Est-ce que finalement, vous en avez rien à faire? Est-ce que c'est une donnée que vous regardez? Est-ce que vous en êtes déjà servi pour planifier vos entraînements, ou est-ce que vous avez pu vérifier que finalement, ce que vous annoncez le prédicteur, eh ben, était pas si faux, ou alors s'il était totalement complètement faux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis si bien sûr, venez en parler dans le Hamsters Running Club, on peut ouvrir une discussion, il y a des discussions qui ont déjà été ouvertes sur ce sujet. Et puis si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez aussi venir les poser dans le Hamsters Running Club sur d'autres sujets, et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance ou plusieurs avec des réponses sur mesure. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions, ça peut être de l'organisation, les plans que vous avez, ça peut être comment gérer le temps, comment gérer l'entraînement, comment gérer la récupération, comment gérer l'alimentation, comment gérer plein d'aspects sur l'organisation, sur du soutien mental, sur de la préparation mentale. Vraiment, ça peut être large, c'est en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous m'envoyez un petit message, on en discute. La séance se termine avec un plan précis pour avancer. Je vous apporte aussi mon soutien par messagerie type Telegram, WhatsApp, par mail dans le mois qui suit. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour en discuter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de Kimode 42. Et je vous souhaite de bons entraînements. Ciao, ciao les sportifs.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.